Aujourd'hui, la masterclass de Mathias Sénard avec Zoé Sfez.
Bienvenue à vous, Mathias Sénard.
Merci.
Ici à la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille pour cette masterclass en public. Mathias Sénard, vous êtes traducteur, écrivain, auteur de plus d'une dizaine de livres et de nombreux articles. Livres tous extrêmement primés. Votre œuvre, elle est traduite dans 22 langues, je crois, aujourd'hui. Elle débute en 2003 avec La perfection du tir, qui est immédiatement très remarquée, qui reçoit notamment le prix des 5 continents de la francophonie. Suivi de Remonter l'Orénoque, adapté plus tard par Marion Laine au cinéma, adaptation assez libre, on y reviendra. On peut citer ensuite Zone, Paris en 2008, roman qu'on a pu qualifier d'homérique, qui n'est fait que d'une seule phrase de plus de 500 pages et qui reçoit le prix Décembre, le prix du livre inter, le prix Candide. Parlons aussi de ce conte, Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, sur un épisode fictif mais plausible de la vie de Michel-Ange, Rue des voleurs en 2012, et en 2015, vous publiez Boussole, qui vous vaut le prix Goncourt. Votre dernier ouvrage, c'est une bande dessinée qui s'appelle Prendre refuge, coécrite avec Zeina Abirached. On va revenir sur cette œuvre et sur sa fabrication, parce que c'est ça l'objet de cette masterclass, œuvre qui a plusieurs constantes. Une intersexualité qui est très présente, des parties pris en termes de rythme dans l'écriture qui sont toujours très tranchées. On y retrouve quasiment toujours des personnages qui voyagent, qui traînent des valises, au propre comme au figuré, souvent une quête amoureuse, et l'Orient, ou en tout cas l'ailleurs, dans son acception la plus large. Alors vous-même, avant de commencer votre vie d'écrivain, vous avez eu une vie de voyageur, qui je crois continue aujourd'hui, et dans ces masterclass, on a l'habitude de commencer par la question de la vocation. Et on a l'impression que les deux sont liés, la vocation de voyageur et d'écrivain. Chez vous, vous êtes né à Niort en 1972. Et je vous ai vu dire plusieurs fois que votre vie a changé à 13 ans avec une lecture. Est-ce que la vocation, elle date de ce moment-là? De quand date-t-elle et quelle était cette lecture?
Vous savez, on a toujours la tendance, peut-être une fois la vie faite, quand on atteint un certain âge et qu'on vous pose souvent cette question de la vocation, justement, à revenir en arrière et à reconstruire, bien évidemment, et à se trouver une vocation d'auteur depuis sa plus tendre enfance. Il paraît que, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie quand j'avais 8 ou 10 ans, je disais que je voulais être écrivain. J'en ai aucun souvenir, évidemment. C'est bizarre de s'imaginer une vocation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours une relation très forte avec la littérature, avec la lecture d'abord. J'ai été un lecteur passionné, je le suis encore. J'aime avant tout les livres. Et quand j'ai commencé à lire, disons, des livres pour adultes, donc aux alentours de, effectivement, 12, 13 ans, il y a un texte qui m'a profondément marqué. Je me souviens encore des circonstances de sa lecture. J'étais très déprimé, comme peuvent l'être certains adolescents. J'ai passé presque une année entière dans ma chambre. Je voulais plus aller à l'école, je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. Et un jour, j'ai lu la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Et c'est un peu ce texte, ou tout simplement parce que j'étais en train de guérir, ça on le saura jamais, qui m'a vraiment fait sortir dans le monde un peu neuf, renouvelé. Oui, par cette découverte et cette envie tout d'un coup de voyager, de découvrir le monde. D'abord par les livres et ensuite physiquement. Et c'est vrai qu'on met, si on peut, dans cette reconstruction toujours à moitié fictive, quelle autobiographie, ce serait quelque chose que je mettrais peut-être en premier lieu, ouais, cette lecture de Blaise Cendrars. Même si je suis pas allé en Sibérie ni en Russie, j'ai choisi d'autres continents. Je suis allé sur les pas de Cendrars que bien des années après.
Vous lisiez, je crois aussi, parce que vous l'avez dit quand vous êtes allé au Golem, vous lisiez Corto Maltese avant de découvrir Cendrars. Vous lisiez de la BD. Vous lisiez quoi quand vous étiez plus petit?
Je lisais à peu près tout ce qui pouvait se lire. Donc évidemment de la bande dessinée, ce que j'avais sous la main. Je fréquentais beaucoup les bibliothèques publiques. J'avais la chance d'avoir un grand-père qui était lui aussi extrêmement lecteur et qui m'offrait très volontiers des livres. Non, pas toujours des livres qui convenaient à un enfant de mon âge. Je me souviens d'avoir lu très péniblement un chapitre des Mémoires de Saint-Simon, par exemple, parce qu'on m'avait obligé. C'était absolument, c'était un pensum atroce. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup lu donc de la bande dessinée aussi. Et pour moi, il n'y avait pas de hiérarchie réelle. C'est-à-dire que je faisais pas de différence entre une grande littérature noble pour laquelle j'aurais eu plus de respect. Tout me valait. Je lisais aussi beaucoup de romans policiers qu'on trouvait très facilement d'occasion, extrêmement bon marché. Et j'en ai lu vraiment beaucoup. Un rythme parfois de plusieurs par jour, même. Mais il y avait toujours quelque chose de spécial dans la bande dessinée, dans ce rapport avec l'image, qui était évidemment bien différent du roman, et avec ce personnage de Corto Maltese, dont je soupçonnais déjà qu'on partageait un goût de l'aventure, un goût de certaines villes, de certains décors, un goût du romanesque, hein, qui représentait vraiment, et qui était pour moi, oui, le début aussi d'un futur chemin, peut-être, vers l'écriture des romans. Enfin, j'aurais aimé être Corto Maltese, quoi, tout simplement. Ouais.
Justement, après, vous avez étudié, ou alors vous avez fait l'école du Louvre, et vous êtes allé à l'INALCO. Vous avez étudié l'arabe et le persan, qui sont des langues que vous parlez couramment aujourd'hui.
Non, le persan, j'ai oublié, parce que je ne le parle jamais, malheureusement. Mais... Et donc, j'ai du mal à parler persan. Mais oui, c'est vrai, j'ai étudié l'arabe et le persan. Ça a été, c'est encore d'ailleurs, de grandes passions. La littérature arabe, la littérature persane, les cultures du monde arabe. Et des mondes iraniens aussi, et c'est, ça m'a vraiment ça formé et transformé, la rencontre avec le monde arabe et le monde persan. Et c'était aussi, comme vous avez dit, j'ai grandi à Niort, et à l'époque, il y avait une espèce de carte universitaire qui faisait que si je voulais étudier les mathématiques ou la littérature française, j'allais à l'université de Poitiers, qui se trouvait à peu près à 40 km de mon domicile, et manquait franchement d'exotisme pour quelqu'un qui voulait se lancer dans les voyages lointains. Et donc, je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux étudier qui me permette d'aller au moins à Paris? Et donc, il y avait cette école du Louvre qui me convenait bien, parce que justement, l'histoire de l'art, j'y connaissais vraiment absolument rien, j'étais très curieux, et qui m'a permis de découvrir les langues orientales, l'INALCO, qui est un institut absolument fabuleux. Je pense que un des plus beaux livres de récits de voyage, c'est la brochure de l'INALCO avec toutes ces langues décrites les unes après les autres. Vous voyez ça, vous avez vraiment envie de partir immédiatement faire le tour du monde. Bon, c'est des centaines de langues enseignées, des langues vivantes, puisque c'est le principe de cet institut. Et donc, évidemment, j'étais comme un poisson dans l'eau, très heureux quand je me suis inscrit en arabe et en persan.
Mais ces langues-là, parce qu'ensuite vous avez fait beaucoup de traductions, vous avez traduit, pas beaucoup, mais vous avez traduit du persan Mirza Habib Esfahani, épître de la queue, puis de l'arabe Youssef Bazzi, vous avez aussi traduit de l'espagnol, puisqu'on ne l'a pas dit, mais vous parlez donc allemand, et vous parlez aussi espagnol et aussi catalan, puisque vous avez vécu et vous vivez à Barcelone. Ça fait quand même plusieurs langues. Est-ce que ce rapport-là aux langues a changé votre rapport à la langue française?
Sans doute... Peut-être plus le fait de vivre longtemps à l'étranger et de pas être en contact quotidien avec la langue parlée. Peut-être ça a effectivement transformé mon rapport à la langue française. Mais je me suis jamais vraiment exilé hors de la langue. J'ai toujours beaucoup lu en français, écrit en français. Donc, bon, je reste extrêmement francophone. Même si c'est vrai que quand je suis à Barcelone, je peux passer des semaines sans entendre hein, le français. En tout cas, j'ai essayé de nourrir ma langue de l'étranger, c'est-à-dire de tournures, de formes, de phrases qui appartiennent ou de types de prose qui appartiennent en propre à la littérature arabe. J'ai essayé d'utiliser, par exemple, cette prose classique arabe qu'on appelle le saja, la prose rythmée et rimée, hein, que moi je trouve très drôle en français à utiliser. Mais ça, c'est vraiment des importés, en fait, hein, dans la langue, des choses qui viennent de l'étranger. J'aime beaucoup des expressions, traduire des expressions de façon littérale aussi dans ma prose. Et puis, parfois, les correcteurs me font remarquer que l'usage de telle ou telle préposition n'est pas attesté en français. ce qui montre bien qu'effectivement, ma langue française a évolué un peu au contact de l'étranger, surtout de l'espagnol. Mais j'ai pas beaucoup traduit, hein. Ça, c'est pas vrai. Je peux pas me considérer comme un traducteur quand je vois.
Je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand j'ai dit ça de vous.
J'ai traduit 2-3 livres, ça fait pas de moi un traducteur. Hein. J'ai traduit Les Mémoires de guerre d'un poète libanais qui s'appelle Youssef Bazzi et de ses mémoires d'adolescents soldats dans la guerre civile libanaise dans les années 70. Et ça, c'était une expérience vraiment extrêmement agréable d'abord de travailler avec Youssef et puis de traduire de l'arabe très contemporain, très beau, très simple. Et aussi de la langue classique, bon voilà, c'est à peu près tout. Puis j'ai traduit de l'espagnol aussi d'un auteur de Barcelone qui s'appelle Roberto Alcantarilla. Et ça aussi, c'était très... C'est une relation assez spéciale puisque c'est mon traducteur à l'espagnol. Et moi, je l'ai traduit au français. Voilà. Une espèce de... Ouais. Relation un peu érotique, comme ça.
Comment est-ce que vous lisez justement les livres, puisque vous êtes traduit dans 22 langues, vous êtes traduit dans des langues que vous parlez, que vous lisez. Vous regardez beaucoup ces traductions, vous travaillez avec les traducteurs.
Enfin, moi, puisque j'ai eu la chance de traduire un peu moi-même, je sais à quel point ça peut être difficile et long. Et donc, j'ai un immense respect pour le travail de mes traducteurs. Il se trouve que j'ai de la chance et que, comme à l'étranger, mes livres sont publiés par souvent d'excellentes maisons d'édition qui confient mes textes à d'excellents traducteurs, c'est toujours vraiment un plaisir si on me pose des questions, de répondre aux questions qu'on me pose, ça, évidemment. Et puis ensuite, si les traducteurs on exprime le désir que je lise et que je leur dise ce que j'en pense, mais finalement, combien de langues est-ce qu'on peut lire bien et vraiment précisément pour juger de sa propre traduction à l'étranger? Peut-être, je sais pas. Allez, 3, 4, 5 au maximum. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça fait, je ne sais pas, peut-être 5, 6 livres qui sont vraiment beaucoup traduits. Et donc, je travaille un peu toujours avec les mêmes traducteurs. Il y en a qui deviennent des gens très proches, qui étaient des amis avant et qui sont restés, par chance. D'autres que j'ai appris à découvrir. Donc, c'est vraiment Oui, ça, c'est une relation extrêmement agréable.
Et alors, avant d'entrer en littérature, même si cette expression n'est pas toujours très heureuse, vous avez donc vécu près d'une dizaine d'années à Téhéran, à Damas, à Beyrouth, au Caire, à Tunis, à Venise, à Rome, puisque vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis.
C'était après.
Et vous vivez à Barcelone. Dans les premières villes que j'ai citées à cette époque-là, vous enseignez le français et vous essayez d'écrire une thèse, je crois. Et vous avez publié votre premier roman, La Perfection du Tir, c'était donc en 2003. Est-ce que vous avez abandonné la thèse pour écrire ou est-ce que vous avez écrit parce que vous avez abandonné la thèse?
Disons qu'à un moment, je me suis un peu fâché avec l'université pour des raisons qui étaient tout à fait personnelles, qui n'avaient rien à voir avec l'université en elle-même, la pauvre. Mais parce que dans les études, ou disons la branche que j'avais choisie, qui était celle de la littérature persane, contrairement à ce que je pouvais imaginer au départ, ce qui était très naïf de ma part, les offres d'emploi n'abondaient pas. Et au bout d'un moment, vous savez, une thèse, c'est quelque chose de long et difficile qui demande une certaine endurance, on va dire. Et à un moment, cette endurance m'a manqué parce que, d'abord, travailler à Téhéran, c'était extrêmement compliqué à ce moment-là. On avait des visas qui duraient très peu de temps. Il fallait ressortir, repartir, revenir. Bref, j'étais dans des circonstances comme ça un peu précaire, et puis ensuite, un peu l'absence de perspective d'avenir, tout d'un coup, m'est apparue comme en me disant, mais pourquoi est-ce que je fais ça, quoi? Ce qui était assez bête. Je pense que si j'avais tout simplement remis cette question à plus tard, j'aurais très bien pu continuer dans cette voie, avec grand plaisir. Et donc je me suis retrouvé à Barcelone, un peu désœuvré. J'avais déjà écrit un premier roman qui était extrêmement mauvais.
Qui vous avait dit qu'il était mauvais, vous l'aviez envoyé à des gens?
Plus ou moins. Donc non, j'étais tout à fait conscient que c'était mauvais, mais j'étais content parce que j'avais fini quand même un premier roman. Et donc ça me montrait que c'était possible. Et lorsque je me suis fâché tout seul avec l'université, j'ai commencé la rédaction de La Perfection du Tir. À Beyrouth d'abord, et ensuite à Barcelone. Et on sent un peu cette colère. La première page, on parle de... la première phrase, c'est le plus important, c'est le souffle. Et le plus important, c'est le souffle. C'était pour moi, essayer d'abord d'avoir le souffle, d'écrire un roman en entier, tout autant que le personnage du tireur d'élite qui ouvre ce texte. Et puis la rage un peu extrêmement violente qu'il y a dans ce roman de guerre provenait aussi un peu de mon état d'esprit à l'époque.
Justement, ça me permet d'enchaîner sur cette fameuse question. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Comment est-ce que vous arrivez à un livre? Ça, c'est votre premier roman. On dit souvent qu'il y a tout dans les premiers romans. Vous, c'est à la fois vrai et pas tant que ça. Il y a déjà un narrateur qui parle à la première personne. Il y a une ville qui, à ce moment-là, n'est pas nommée. Il y a une obsession amoureuse, pas vraiment une quête. Comment, je sais que vous n'aimez pas le mot de sujet de livre. Celui-là, vous venez de nous dire comment il est venu. Comment ils viennent, les sujets de vos livres?
D'abord, je pense que pour le premier texte, c'est très différent de d'écrire en sachant qu'on va être publié. Donc, on a un éditeur qu'on a commencé pas une carrière, parce que c'est pas de question de professionnalisation, mais en tout cas, qu'on a un interlocuteur à qui on peut faire lire des textes dont on sait qu'ils vont très certainement finir dans des livres, que lorsqu'on est tout seul face à son ordinateur ou à son cahier, hein, en écrivant comme ça un peu pour personne. Et la perfection du tir, donc ça raconte des épisodes de la guerre civile libanaise qui sont tous rassemblés autour de ce personnage narrateur. Dans le texte, Beyrouth n'est pas mentionné, mais tous les gens qui lisent le livre connaissent la ville. J'ai pas mentionné Beyrouth parce que ça m'obligeait à un certain réalisme historique, ne serait-ce que par respect pour les victimes tout à fait réelles, malheureusement, de la guerre civile. Si j'avais commencé à parler de Beyrouth, là, il fallait être au moins respectueux de la chronologie, de certaines choses. Alors que, en enlevant tout réalisme, il n'y a pas du tout, il y a un seul nom propre, ou deux noms propres dans le livre. Ça me permettait une totale liberté vis-à-vis des événements. Mais finalement, le sujet vient d'une enquête que j'avais déjà commencée et dont je pensais faire un projet, pour le coup, universitaire, sur la littérature de guerre, au sens où comment est-ce que les combattants racontent eux-mêmes la violence qu'ils subissent et qu'ils font subir. Et ça, je dois cet intérêt justement à un colloque qui s'était tenu à l'Institut français de recherche en Iran, à Téhéran, dans les années 90, où on avait entendu justement des anciens combattants de la guerre, donc Iran-Irak, iraniens. Et à cette occasion, j'avais lu aussi pas mal de poèmes de guerre, parce qu'il y avait un de nos collègues chercheurs qui s'intéressait à cette littérature. Et c'était effectivement passionnant que d'entendre comment est-ce que le combattant lui-même raconte sa guerre. Et moi, ça me ramenait aussi à ces auteurs, dont Blaise Cendrars, que j'avais beaucoup lu, et ses propres souvenirs de la guerre de 14, qui raconte dans La main coupée, par exemple. Et j'avais déjà une petite expérience du Liban à cette époque, et j'ai poursuivi un peu cette enquête avec les quelques combattants auxquels je pouvais avoir, ex-combattants auxquels je pouvais avoir accès un peu autour de moi. Et donc j'avais recueilli comme ça pas mal de matériaux, de récits, tous liés à l'expérience et à de la violence de guerre. Et c'est ce matériau-là que j'ai utilisé dans La perfection du tir. Donc, le sujet, il était déjà là, finalement. On se rend compte qu'un peu tous les sujets sont autour de vous. C'est votre attention qui, tout d'un coup, va vous amener vers tel ou tel chemin. Et après, évidemment, tout n'est pas qu'une affaire de sujet. Il y a aussi un projet, une idée d'un futur livre. Voilà.
Et justement, je vais vous poser la question pour Zone et pour Boussole, pour les mêmes raisons. Zone, qui est donc ce roman... qui met en scène Francis Servan-Mirkovitch, qui sont tous les deux proches, parce que ce sont deux narrateurs, qui sont l'un dans un train, dans Zone, qui est un combattant, un porteur de valises, qui va au Vatican, et qui se remémore les lieux, les gens qu'il a tués, ses combats aux côtés des Croates, les gens qu'il a espionnés aussi, quand il était au service du renseignement français, dans une zone, c'est ça le terme, dans ce trajet de train entre Paris et Milan. Et dans Boussole, c'est un musicologue malade, Frank Ritter, qui tente de passer une longue nuit dans sa chambre à Vienne et qui, lui, se remémore tous ses voyages de Damas à Palmyre, de Palmyre en passant par Hormuz, en se rappelant, en essayant de convoquer la figure de Sarah, qui est une chercheuse dont il est épris, qui elle-même est dans une quête des liens entre l'Orient et l'Occident. Ces deux livres, ces deux narrateurs qui donc se baladent comme ça. Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous permet de commencer ces livres? Est-ce que vous vous mettez à vous documenter d'abord? Ou est-ce que c'est l'idée du livre qui ensuite pousse à la documentation? Parce que ce sont deux livres dit érudit, avec toute une foule de références, on va en reparler, l'intertextualité. Mais qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui détermine l'autre?
En fait, les deux avancent concurremment. Enfin, ce qui se produit généralement, c'est que donc, j'ai une vague idée, dans ce qui pourrait devenir le projet d'un livre. Mais évidemment, un vrai projet, ça se concrétise par un narrateur, par exemple, comme vous l'avez dit, un cadre, des... par exemple, pour Zone, évidemment, le projet commence réellement à avancer quand je sais que Francis est dans son train entre Milan et Rome.
Comment vous le savez, ça?
Parce que j'avais justement... très vite, il m'est apparu que j'arriverais pas à relier toutes ces histoires aussi, puisque le projet, c'était de faire un peu une espèce d'histoire de la Méditerranée au XXe siècle, comme on construit une mosaïque par morceaux. De la Méditerranée dans ce qu'elle a de plus violent, c'est-à-dire pas la Méditerranée des tourismes, mais celle de, justement, encore une fois, la violence de guerre, et notamment de la guerre civile libanaise, c'est-à-dire de l'Est de la Méditerranée, du conflit en Palestine et de la guerre en Yougoslavie. Comment raconter toutes ces choses qui sont aussi éparses dans le temps et dans l'espace? Il me fallait justement un lien. Donc j'avais l'idée de ce narrateur, Francis Servin. Mais... qu'est-ce qui allait le pousser à raconter cette histoire et comment est-ce qu'on allait pouvoir tenir tous ces récits ensemble? Et je me suis dit, mais un train, c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà. Et j'ai tout de suite imaginé que un train, parce que moi-même, j'étais à Rome à ce moment-là, à la Villa Médicis, et je me suis dit qu'un train entre Milan et Rome, c'est-à-dire à peu près au milieu de cet espace méditerranéen, parce que vous savez que si on plie un peu la Méditerranée en deux pour faire se toucher... Beyrouth et Barcelone, bah vous la pliez, c'est à peu près sur l'est de l'Italie. Et donc l'Italie était vraiment centrale, Rome était vraiment au centre de cet espace. Et je me suis dit, mais c'est très simple, voilà, je vais mettre Francis dans un train entre Milan et Rome. Et puis j'étais un peu comme ça, obnubilé par cette structure, en me disant, ah, alors, je vais prendre le train, donc je suis allé à Milan, je fais Milan-Rome en regardant par la fenêtre et en notant tout ce qu'on voyait par la fenêtre dans un sens. Donc j'avais un chronomètre, évidemment, pour savoir à peu près où je me trouvais, un espèce de tachymètre qui me disait plus ou moins la vitesse entre deux poteaux, et donc une carte dans laquelle je suivais péniblement la position, hein, parce qu'à 500 mètres près du train sur ma carte, et je notais ce qu'il y avait, les maisons, champs, vaches, usines, d'un côté. Et puis après, je me suis dit, mais il faut que je fasse de l'autre. Donc j'ai refait le trajet, mais de l'autre côté du wagon. On notait ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'était des pages et des pages de notes. Je pense que les gens devaient me prendre pour un fou, furieux, qui griffonnait ces trucs en regardant par la fenêtre. Et donc j'avais à noter comme ça plusieurs dizaines de pages, absolument illisibles, je ne m'y retrouvais plus moi-même. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Le dernier train, on est en hiver, le dernier train part à 6 heures de Milan, il fait nuit. On ne voit rien par la fenêtre. Mais j'avais quand même mon système qui était, pour donner vraiment une réalité tout à fait physique à ce texte, d'écrire un kilomètre par page. C'est-à-dire que le trajet entre Milan et Rome, qui sont à peu près, on va dire, un peu moins de 500 kilomètres ferroviaires, parce qu'il y a beaucoup de tunnels, donc c'est un peu plus court qu'en voiture, serait matérialisé dans le livre au rythme de 1 kilomètre par page. Donc si on sait que Bologne se trouve au kilomètre 279, par exemple, de la ligne Milan-Rome, vous allez à la page 279 et vous êtes avec Francis à Bologne. Donc ça, c'est vraiment la réalité du trajet que j'ai conservé dans l'écriture du livre et qui m'a vraiment été extrêmement utile, justement, pour tenir toutes ces choses ensemble.
Et parce que les choix formels que vous faites sont souvent très radicaux, là on vient de l'entendre, et très pointilleux et tout à fait en lien avec le sujet. Donc dans Zone, c'est une page par kilomètre. Dans Boussole, c'est chaque page qui équivaut à 90 secondes dans la nuit que vit Frank Ritter.
Oui,
chaque chaque fois 2h, 2h20, etc.
Ouais, il faut quand même préciser que ce sont des choses qui intéressent que moi. Le lecteur est tout à fait dispensé de savoir tout ça une fois que le livre est terminé. Finalement.
Mais alors pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous mettez ces contraintes, on va dire, formelles?
Parce que c'est un vrai rythme, justement. Hein, dans le cas de Franz Ritter, c'est un livre qui a trait à la musique. Bah, là, j'ai mis la noire à 90, c'est un peu comme un métronome. Où la nuit est tout à fait réelle et c'est cool, hein, au rythme de 90 secondes par page. Bon. Donc on avance avec une certaine régularité. Parfois, le temps, on pourrait dire diégétique, va s'accélérer, mais hein, cette armature-là de 90 secondes par page, elle reste. Donc même si Francis divague pendant 25 pages, bah, il se sera quand même écoulé dans sa nuit que tant de secondes. Donc c'était réellement pour moi, mais encore une fois, ça, c'est une histoire de composition, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est terminé, d'ailleurs, je suis pas un maniaque. Dans les traductions, par exemple, je n'impose pas à tous les éditeurs étrangers de maintenir ce rythme, évidemment. Donc, une fois que le livre est terminé et que je me suis servi de ça pour lui donner sa structure, parce qu'on pourrait ne pas en parler.
On peut parler aussi de l'écriture, parce que là, on a parlé de la forme et des structures, disons, des contraintes formelles. Dans l'écriture, pareil, vous êtes dans des choix assez radicaux en fonction du sujet. Zone, c'est donc cette fameuse phrase ininterrompue, sans majuscule, interrompue en réalité.
Oui.
Vous allez nous dire pourquoi. Interrompue par un roman fictif, un roman d'un personnage qui s'appelle Raphaël Kala, qui met en scène cette fois-ci, qui donne à voir un personnage féminin, essentiellement, qui interrompt cette longue phrase. Dans La Perfection du tir, vous aviez des phrases parfois qui nous mettaient presque avec beaucoup de virgules, très hachées. On est dans une forme d'alerte permanente, comme ce fameux combattant, et très réaliste, très, très peu lyrique. Comment est-ce que, justement, vous travaillez sur ça? Est-ce que vous la cherchez, cette écriture, ou cette voix?
Disons que le projet commence à s'avancer vers le livre que lorsque la voix, justement, ce qu'on pourrait appeler le style est là. C'est justement quand le... Bon, parce qu'un personnage en littérature, ça n'existe que par une façon de parler, ou en tout cas une façon d'écrire. Hein. En tout cas, un personnage narrateur. Et donc c'est qu'à partir du moment où je commence à trouver cette matière, un peu le grain de la voix de Francis ou de Franz à Vienne, ou du narrateur sans nom de La Perfection du tir, c'est à ce moment-là que le livre commence à s'écrire, bien sûr. Donc ce sont des choix qui mettent en jeu l'ensemble du projet. Évidemment, pour Zone, la décision de créer cette phrase immense, elle est là dès le départ. De la même façon que le train entre Milan et Rome ne s'arrête qu'à Florence et à Bologne, cette phrase ne s'interrompt presque pas, sauf pour laisser la place justement à ce que Francis lui-même lit dans le train. Qui est un roman écrit d'une façon, entre guillemets, tout à fait classique, non. Et qui justement permet un contraste extrêmement saisissant avec le rythme comme ça un peu interminable des réflexions de Francis. Et oui, ça me permet donc un jeu de contraste, c'est-à-dire de reposer un peu le lecteur de cette phrase immense, donc de m'interrompre moi-même, d'avoir une autre écriture et de raconter une histoire de tout aussi violente que les autres, mais depuis le point de vue d'un personnage féminin, qui est cette longue nouvelle écrite par ce soi-disant Raphaël Kala.
Parlons de vos personnages. Souvent, vous avez un narrateur homodiégétique. Vous avez un narrateur qui nous raconte, alors soit au fil des événements, La Perfection du tir, Rue des voleurs, soit qui se remémore dans Boussel et dans Zone. Souvent, ce sont des hommes. Il y a toujours des personnages féminins, quasiment toujours des personnages féminins, qui ne disent jamais « je ». dans mon souvenir, si je suis presque exacte, il y a évidemment Sarah qu'on entend par la voix de Franz. Dans Remonter le Rénoc, par exemple, votre deuxième roman, c'est Johanna qui remonte le Rénoc. On est avec elle, on est en focalisation interne, mais elle s'appelle elle. C'est Yuri qui parle. Vous avez eu des personnages, comment est-ce que vous expliquez justement ce choix de souvent.
La vérité, c'est que je n'explique pas. très certainement, étant un homme moi-même, je me sens plus à l'aise pour dire je. Non, mais pas forcément. Je me souviens plus exactement pourquoi Johanna ne dit pas je, parce que je pense qu'il y avait déjà le premier narrateur et Nafio dans le.
Donc Remonter le Rénoc, pour eux, c'est un triangle amoureux entre Yuri, Johanna et l'amant de Johanna. Johanna s'en va, c'est Yuri.
Alors, c'est très loin tout ça.
C'est très loin. Bien, mais... C'est pas la question. Mais en tout cas, en l'occurrence, quelqu'un dit je, ça n'est pas Johanna. Que c'est elle qui remonte le Rénoc.
Alors que c'est elle qui remonte le Rénoc. Effectivement, non, je me pose la question maintenant pour savoir pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas je.
On peut dire autrement, qu'est-ce que le je vous permet chez vos personnages?
Disons que ce qui m'intéresse dans ces espèces de mondes intérieurs, c'est justement l'exploration d'un univers intime et complexe de personnages qui précisément sont dans des circonstances, des moments de leur vie tournants, ou en tout cas des points de bascule de leur existence, et qui vont se remémorer et revenir en arrière. Franz dans son appartement à Vienne, ou Francis dans son train à Milan. Pourquoi ce que permet la première personne, alors il y en a une autre aussi qui est un peu différente, mais qui néanmoins ressemble un peu à ça, c'est celle de Rue des Voleurs, où un jeune homme, lui aussi qui s'appelle Lardar, raconte lui aussi sa vie. Peut-être est-ce que je privilégie ce type de récit parce que la première personne, c'est une façon de mettre en mouvement tout de suite quelque chose, notamment mes personnages qui sont toujours voyageurs. On part directement dans la fiction. Quand quelqu'un dit, vous raconte immédiatement une histoire, le récit s'enclenche pour moi très vite. C'est pas pour rien que Francis, on l'attrape comme ça en gare de Milan, et il commence ses élucubrations. C'est vrai que le long monologue intérieur est quelque chose qui me convient bien. Mais c'est pas du tout le cas, par exemple, dans ce que je suis en train de faire en ce moment, où il n'y a pas de... où il y a des dizaines de narrateurs très différents, y compris des femmes.
On va parler à la fin de ce que vous faites en ce moment. Justement, vos personnages, ces personnages, ces deux-là, mais même les autres, est-ce que, concrètement, pour parler de vos méthodes de travail, là, vous nous avez raconté comment vous avez pris le train pour disons, ancrer zone dans le réel, ces fameux personnages, une fois que vous leur avez trouvé une voie, est-ce que vous leur faites, je ne sais pas, des fiches, quand vous travaillez avec eux, la plupart du temps, notamment Franz et Francis, qui portent des noms très cousins, je m'en rends compte à l'instant. Est-ce que, qui n'arrêtent pas de voyager dans leurs souvenirs, est-ce que vous avez une feuille où vous déroulez où ils ont été, qui ils ont rencontré, qu'est-ce qu'ils ont lu? Parce qu'évidemment, l'intertextualité, on en a parlé dans Boussole, on ne va pas faire le jeu de compter le nombre de personnages auxquels Franz fait référence. Comment vous vous y retrouvez, vous? Comment vous travaillez?
Bon, alors, pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, de leur histoire, ça, je m'en souviens, c'est pas la peine de noter, mais je travaille beaucoup avec des plans. Donc, pour zone, il y avait tout était sous forme de post-it. J'avais un immense mur. J'avais la chance de pouvoir travailler à l'époque dans l'atelier d'un camarade artiste qui n'était pas là dans la journée, et donc j'avais investi un peu ce très grand mur de tous mes post-it de couleurs différentes selon les personnages et l'époque et les récits. Et donc ça me permettait d'avoir vraiment toute l'organisation du livre sous les yeux. Je voyais comme ça d'un seul coup d'œil, ah là, il y a beaucoup d'oranges. on a essayé d'équilibrer, de remettre le, voilà, pour que ce soit un peu toute cette mosaïque, finalement, elle était très réelle pour moi. Et alors, ça avait un inconvénient, c'est que je pouvais travailler que là. C'était pas transportable. Voilà. Mais c'était effectivement extrêmement, ça convenait vraiment bien au projet de Zone. Mais c'était des notes que moi seul pouvais comprendre. C'était des espèces d'anamnèse hein, sur un post-it. Il y avait un nom, une date. Et moi, je savais que c'était ça correspondait à des épisodes que je souhaitais raconter. Pour Boussole, c'était un peu pareil, mais comme l'organisation, c'était du temps. Je savais par chaque chapitre, c'est-à-dire par, on va dire, tranche de 2-3 heures, qu'est-ce qui se passait exactement. Donc l'organisation pour Boussole, elle était, on part, on est à Vienne, et même si on revient tout le temps dans l'appartement de France, on va toujours, à chaque fois, plus à l'est. Donc on va commencer, on va aller à Istanbul, on va revenir à Vienne, après on va aller en Syrie, on va revenir à Vienne, on va aller après à Téhéran, on va revenir à Vienne, et ainsi de suite jusqu'au Pacifique. Donc, et tout ça, c'était organisé de façon beaucoup plus classique, par des espèces de plans, de brouillon sur des carnets, enfin, du cahier, principalement. Et non, j'ai pas refait ce truc du post-it. Peut-être que je devrais faire ça maintenant.
Parce que maintenant, vous faites comment?
J'ai toujours ces trucs de cahier, là, mais c'est assez compliqué, d'ailleurs, parce que j'en ai plusieurs, et je suis pas très organisé, en fait, en vrai.
Vous écrivez sur ordinateur ou à la main?
Ça dépend. Bien sûr, j'écris, il y a toujours un moment où on passe à une version informatique. Alors, parce que je pense pas que les éditeurs aujourd'hui, enfin, je pense qu'ils seraient un peu embêtés si on leur donnait des tonnes de feuillets manuscrits. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de travail fait à la main et ensuite repassé à l'ordinateur. Il y a même des livres que j'écris entièrement à la main.
Par exemple?
Par exemple, L'alcool et la nostalgie a été écrit entièrement à la main. Parce qu'il a été écrit dans un train. Donc, un train où il y avait assez peu d'électricité, donc j'ai écrit à la main.
Ouais. Justement, vos livres, on l'a dit, il y a Zone et Boussole qui sont des livres assez cousins par leur ampleur, par leur choix formel. Et puis, il y a des livres qui sont tout à fait différents. Alcool et nostalgie, Rue des voleurs est d'une certaine manière assez différent. Et de Zone et de Boussole, il y a Parle-leur de Bataille de Roi et d'éléphant, qui est alors, de la même manière très formellement différent des deux autres, puisque c'est cet épisode fictif de la vie de Michel-Ange. En tout cas, on n'est pas sûr qu'il ait existé. Il n'y a presque pas des chapitres, il y a une page, deux pages, et on passe à un autre point de vue, à un autre moment. Est-ce qu'un livre appelle l'autre? C'est-à-dire, quand vous avez terminé un livre, comment est-ce que vous savez déjà que vous avez terminé un livre?
Comment est-ce qu'on sait que le livre est terminé? Ben, généralement, si on a un projet à peu près comme ça qui se tient, ben, je sais qu'il me reste tant de chapitres à écrire. Et donc, il y a un moment où le projet commence à ressembler à l'image que j'en avais. Et puis, on dit, voilà, ben, là, c'est terminé. J'ai pas de...
Vous réécrivez pas?
Si, bien sûr. Oui, mais après, on peut se laisser plus ou moins le temps de la correction, de revenir sur ce qu'on a fait. Mais moi, je corrige beaucoup en travaillant. Et puis après, il y a tout le travail avec l'éditeur qui est essentiel, hein, qui est le premier contact qu'on a avec un lecteur, qui est un lecteur professionnel, qui voit ce qu'il pourrait y avoir dans le texte qu'il n'y a peut-être pas encore, qui peut être attentif à des questions d'architecture romanesque, de forme du livre, ou aussi à des points de détail. Donc ça, c'est un travail vraiment passionnant, que j'aime beaucoup aussi. Mais on n'a jamais trop de problèmes, enfin dans mon cas, à dire, voilà, le livre est terminé, il faut passer à autre chose. Et justement, quand on passe
alors,
à autre chose...
Qu'est-ce que c'est l'autre chose?
Y a des, par exemple, vous parliez de Parle-leur de Bataille de Roi et d'éléphant. Ça, c'était un... Donc c'est effectivement un livre qui raconte un épisode de la vie de Michel-Ange, le voyage supposé de Michel-Ange à Constantinople au tout début du XVIe siècle. Et moi j'avais vraiment pensé comme un livre de dessin, un peu comme un carnet de croquis, des chapitres très courts. Alors là, un narrateur qu'on pourrait appeler presque omniscient, en tout cas qui cache pas qu'il est un écrivain qui raconte cette histoire, mais par chapitre court, comme Michel-Ange pouvait dessiner. Voilà. Mais en fait, ce récit est, pour ainsi dire, tombé de zone, puisque j'ai découvert cette invitation donc du sultan Bayazid à Michel-Ange quand j'étais à Rome en train d'écrire Zone. Pour construire un pont. Cette invitation, elle est attestée hein, par les biographes de Michel-Ange, et puis surtout son premier biographe, qui est aussi son disciple, qui est Ascanio Condiv, et qui raconte que Michel-Ange, au moment où il se fâche pour la première fois avec Jules II, qui rentre chez lui à Florence, reçoit l'invitation hein, du sultan Bayazid pour construire un pont sur la Corne d'Or à Constantinople. Et donc je me suis dit, ça je vais le mettre dans Zone. Parce que c'était vraiment une histoire de ces rapports entre l'Est et l'Ouest. Et puis ça rentrait pas, il n'y avait pas moyen de mettre ça dans Zone. Donc je me suis dit, on va en faire un petit livre après.
On a l'impression qu'il y a ça, parce qu'on en a peu parlé, je trouve, au regard du fait qu'on le dit très souvent de vous, notamment Boussole, qui est peut-être celui qui le fait le plus, mais vous peuplez vos romans de personnages fictifs, mais évidemment de personnages réels, célèbres, moins célèbres. Quand on regarde mon exemplaire de Zone ou de Boussole, j'ai des listes et des listes et des listes de personnages que vous nous avez fait rencontrer, des dizaines et des dizaines. Je peux pas les citer ici. Et souvent, on en retrouve certains dans certains de vos livres. Il y a évidemment Blaise Cendrars, il est présent quasiment tout le temps. Vous faites Alcool et Nostalgie, qui est vraiment placé sous son signe. Et puis dans Boussole, on croise toute une foule de femmes, d'exploratrices. Et puis on croise Anne-Marie, la fameuse Anne-Marie, mon Dieu, j'ai du mal à dire son nom, Schwarzenbach, j'ai toujours peur de le dire mal, qui est l'obsession de Sarah. Et puis là, dans votre bande dessinée 3 ans après, elle est l'un des deux personnages de cette bande dessinée, Prendre refuge, et vous placez un autre livre sous son signe. Ces fameux personnages-là, on a l'impression qu'ils créent du désir chez vous pour d'autres livres.
Disons qu'il y a des scènes et des moments tournants extrêmement importants que je pense que je pourrais écrire sous différentes formes à l'infini. Et ce moment que je raconte en Afghanistan dans la bande dessinée Prendre refuge, ce moment où Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach arrivent en Afghanistan et apprennent le début des hostilités en Europe en 1939, le début de la guerre, alors que Anne-Marie Schwarzenbach est une militante antifasciste qui s'oppose justement à sa famille très bourgeoise suisse. Elle est anti-nazie. Et c'est un peu... Elle avance elle fuit un peu l'Europe dans ce voyage et elle arrive en Afghanistan et là, elle est rattrapée un peu par tout ce qui s'effondre derrière elle.
Parce que pour rappeler, Anne-Marie Schwarzenbach est morte ensuite en 1942 quand elle revient en Europe, à 32 ans seulement. Et c'était donc cette journaliste exploratrice qui a été liée à la fois à Eric Hamann.
Oui, auteur. Vraiment, j'adore cette femme pour. D'abord, parce qu'elle est. Elle est de son temps. Hein, elle est vraiment extrêmement curieuse de ce qui peut se passer sur la planète entière à son époque. Et, elle est extrêmement libre. Elle est aussi, elle a aussi des faiblesses. Elle est droguée, elle est morphinomane. Elle est passionnément amoureuse, mais sans réussir à trouver une espèce de stabilité dans l'amour. Enfin bref. Et pour moi, oui, c'est un des personnages clés de mon 20e siècle à moi. Et en plus, elle a une vraie relation avec le Moyen-Orient. Elle est archéologue. Elle fouille au Liban, en Syrie. Elle passe beaucoup de temps en Iran, puisqu'elle épouse un diplomate français qui est en poste à Téhéran. Donc oui, elle me fascine tout à fait. Et je pense que je pourrais réécrire cette scène en Afghanistan, où elles apprennent le début des hostilités en Europe. Oui, parce que c'est vraiment un moment clé. C'est-à-dire que ni pour elle ni pour nous, le monde ne sera plus le même après ça. Et apprendre ça devant les Bouddhas de Bamiyan, au milieu de l'Afghanistan, sans évidemment pouvoir deviner que les gens avec lesquels on parle même, c'est-à-dire ces archéologues, les époux Akin, mourront quelques mois plus tard dans le torpillage de leur paquebot, sans savoir évidemment qu'on mourra soi-même quelques années plus tard et qu'on ne verra jamais la fin de la guerre. Ah, c'est extrêmement émouvant.
On peut parler de prendre refuge et justement des collaborations. Vous avez toujours participé à plusieurs revues. Vous collaborez donc sur cette bande dessinée, la première avec Zeina Abirached, auteur du magnifique Piano Oriental. Vous avez publié dans plusieurs revues. Je crois que vous avez commencé à écrire un livre collectif avec vos camarades, on me dit ça, du collectif Un Culte, bien avant de devenir écrivain vous-même. La collaboration, c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Ah oui, bien sûr, mais c'est même fondamental, je pense. Peut-être parce que l'écriture est quelque chose justement de solitaire. J'adore la collaboration, alors que ce soit la collaboration avec Zeina Abirached, c'est-à-dire écrire pour le dessin. Ça, c'est vraiment magique, hein, de penser et d'écrire des scènes qui ensuite vous reviennent sous forme d'images. C'est magnifique. Et où la collaboration qu'on peut avoir avec les gens d'Un Culte, avec qui on a animé donc la revue pendant un peu moins de 10 ans, une vingtaine de numéros en tout cas, et puis fait quelques livres collectifs, dont un qui était vraiment un projet fou.
Kadhafi.
Oui, qui était de faire une biographie de Kadhafi collective. Qui s'appelait Un Chic Type, et qui était une biographie loufoque, mais parce que la vie de Kadhafi est aussi a des aspects absolument incroyables.
Et vous l'avez pas fait, donc ça, finalement.
Bah, si, en fait, si.
Mais vous l'avez pas publié.
On l'a pas publié parce qu'on trouvait ça nul, en fait. Mais et je pense qu'on avait raison. Mais
justement, est-ce que vous avez l'impression que vous progressez, ou en tout cas que vous évoluez vers d'autres formes ? Parce que on peut parler aussi de dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone. C'est un très beau livre où là vous publiez finalement des récits poétiques, on peut dire ça comme ça, qui sont des récits poétiques que vous avez écrits, je crois, pour certains il y a très longtemps, qui éclairent d'un jour nouveau un peu vos romans, parce que souvent on a l'impression qu'il se passe pour certains à Beyrouth et qu'ils sont cousins de La Perfection du Tir. Pourquoi est-ce que vous êtes senti de les publier, finalement, parfois 10 ans après les avoir écrits?
Justement, peut-être parce que le temps avait passé et qu'il m'apparaissait comme documentant quelque chose, ou en tout cas pouvant, par leur aspect voilà, un peu voyageur, et pouvoir intéresser le public. Et puis parce que j'ai une relation de grande confiance avec les éditeurs d'Un Culte, et donc je leur ai montré beaucoup de textes, et je savais qu'ils ne prendraient que ceux qui jugeaient vraiment dignes de tout publier. Donc,
Vous ne les avez pas retouchés ? Est-ce que vous retouchez ? Vous aimeriez retoucher ?
C'est extrêmement difficile de retoucher à quelque chose qu'on a écrit il y a plus de 20 ans.
Ah.
C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ça, et puis il n'en restait rien. C'était ça. Ouais. On efface tellement que finalement il reste plus que 2 phrases. On dit non, ça va pas. Donc je peux pas vraiment le faire moi-même. Donc il faut que je le confie à quelqu'un d'autre. Voilà. Le résultat, comme vous dites, me surprend par justement le rapport qu'il entretient avec les autres livres. Et c'est assez drôle puisqu'il y a c'est un journal d'écriture. Alors même s'il n'en est pas directement question, ce sont que des textes qui sont écrits en voyage, en Yougoslavie, enfin en ex-Yougoslavie, donc en Bosnie, dans les Pamirs, en Russie, à Beyrouth, un peu partout au Moyen-Orient. Donc ça offre une autre vision de ces pays qu'on va retrouver par ailleurs dans mes romans.
Vous avez reçu le prix Goncourt Mathias Sénard à 43 ans pour Boussole.
C'est vieux.
C'est vieux. Ah, tout est relatif, mais effectivement, c'est la moyenne, disons, des Goncourt. Qu'est-ce que ce Goncourt vous permet ou pas ? Comment est-ce que vous regardez justement la réception de vos œuvres ? Peut-être on va parler du prix et ensuite peut-être du public, mais qu'est-ce que ça a fait à l'écrivain que vous êtes ?
Les prix, c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est-à-dire, Bon, j'ai eu la chance d'en obtenir beaucoup. Et à chaque fois, c'est à la fois un grand moment pour l'orgueil de l'auteur, pour sa maman aussi. Mais et après, on essaye de l'oublier. Sinon, parce qu'il y a aussi c'est aussi un effet du hasard. Il ne faut pas se cacher que tout ça, ce sont des conjonctures, des séries causales qui finissent par se rencontrer dans la décision d'un jury, mais ça ne signifie pas grand-chose en soi, en fait.
Et dans la manière dont vous avez de travailler, ça n'a pas modifié. On a l'impression que c'est après ce concours que vous avez publié ces fameux textes poétiques. Vous faites de la BD, c'est la première fois. Ça vous a libéré ou au contraire, ça vous oblige ?
Non, je pense que je l'aurais fait, ces projets, sans doute de la même façon. Après, ce qui est très vrai dans le cadre du prix Goncourt, c'est que ça débouche sur beaucoup d'invitations, de promotions, de voyages à l'étranger. Et donc, on fait les choses beaucoup plus lentement, sans doute qu'on les aurait fait sinon. Mais après, c'est des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que ça change ? J'en sais rien. Franchement, je ne saurais pas dire.
La réception critique de votre travail, par
exemple. Si ça change, qu'on ne peut plus l'avoir.
Ah ! Eh ben, ça change quand même pas mal, non ?
Maintenant que j'y pense, c'est vrai, voilà, ça c'est une véritable conséquence. On ne peut plus avoir le Goncourt.
Et vous écriviez, est-ce que vous écriviez avant le Goncourt en pensant au Goncourt ?
Alors, on n'y pense jamais. En plus, le Goncourt, c'est toute une série de. Oui. On est plus sur la première liste, puis il y a la deuxième liste, puis il y a la troisième liste. Donc, ça dure quand même pas. C'était pas la première fois que j'étais sur la liste, c'était même la troisième fois, je crois, ou quatrième fois. Et donc c'est un peu toujours un feuilleton qu'on suit un peu d'une façon un peu extérieure aussi en disant ah, et puis il y a quelque chose qui dit beaucoup du rapport à l'éditeur aussi hein, c'est que c'est une aventure surtout collective où là c'est plus juste l'auteur Mathias Sénard mais c'est aussi toute une maison d'édition qui est derrière le livre donc ce sont des moments qu'on vit ensemble et où on souffre ensemble on est heureux ensemble. Non, c'est aussi je pense, un des grands moments de la vie d'une maison d'édition.
Comment est-ce que vous communiquez ou pas avec votre public ? Il y en a ici, il est nombreux. Vos textes qui sont souvent très commentés. Vous avez eu le Goncourt, on parle du Joyce, le New York Times dit que vous êtes le nouveau Joyce, on a pu dire le nouveau Balzac.
Le Joyce Niortais.
Le Joyce Niortais, c'est la classe absolue. Par exemple, vos rapports avec vos lecteurs, avec ceux qui vous lisent.
Ils sont cordiaux.
Ça vous apporte ou pas ? Est-ce que vous lisez, par exemple, ce qu'on écrit sur les blogs ou dans les rencontres ? Est-ce que ça apporte quelque chose à ce que vous écrivez ?
Les rencontres en librairie, je pense que ça, c'est vraiment des moments très importants pour un auteur, parce que là, les échanges sont souvent très décontractés, de proximité. Et il y a des lecteurs qui vous engueulent, ça j'adore ça. Ils sont pas contents pour une raison ou pour une autre. Ou qui ont aimé un texte et puis qui sont déçus par le suivant.
Et donc, vous en tenez compte ou pas du tout de ça ?
Le problème, c'est que c'est toujours agua pasada, comme disent les Espagnols. C'est toujours après coup, parce que, bien évidemment, le livre est déjà fabriqué, imprimé, terminé. Et puis là, les lecteurs vous disent « Ah, mais quand même, pourquoi il meurt ?» Ou alors, on vous dit « Oui, non, mais Boussole, vous auriez dû en enlever la moitié. » Mais vous vous rendez bien compte que c'est trop tard. C'est à la fois toujours agréable de discuter. En tout cas, il y a même des gens... parce que le lecteur qui vient rencontrer un auteur... Bon, il y en a certains qui ont pas du tout lu les livres, donc qui sont là pour... justement, peut-être pour découvrir, à travers l'auteur, de possibles livres. Mais il y a aussi des gens qui ont lu et qui ont des questions tout à fait précises sur... Alors, est-ce que ceci est vrai ? D'où ça vient cette histoire, par exemple ? Ou il y a une histoire qui m'a beaucoup touché, qui m'a rappelé telle chose ? Est-ce que vous saviez que ? Donc, c'est vraiment un échange dans lequel on apprend beaucoup. Et puis, j'ai eu des lecteurs, par exemple, qui m'ont offert des boussoles. Beaucoup, c'est très sympathique, des livres. Non, je ne crains pas le contact avec les lecteurs, au contraire. Et puis souvent, c'est dans des librairies ou dans des espaces qui sont plutôt où je me sens plutôt protégé au milieu des livres. Donc j'aime bien. Oui. Mais après, les lecteurs, il y a aussi ceux qui écrivent par lettre, encore en papier, qui vous font un courrier, qu'ils adressent à l'éditeur. Et là, il y a des choses extrêmement surprenantes. Là, c'est un peu parfois une boîte de Pandore où on tombe sur des choses. Par exemple, j'avais reçu une lettre de 7 ou 8 pages calligraphiées où je n'ai pas compris un traître mot. C'était très impressionnant. Vous voyez les microgrammes de Walzer, là. Et c'était ça, mais en noir, extrêmement serré, et même à la loupe, on comprenait rien.
Dernière question, justement, Mathias Sénard, parce que c'est la dernière, quasiment. Vous travaillez sur quoi, en ce moment?
Alors, je suis dans un projet un peu démesuré, un peu fou. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai commencé, mais en 2009. Donc, juste après Zone. Et là, on devrait enfin en voir la fin. C'est un... Je ne sais même pas comment en parler encore. Ça, c'est quelque chose qui se passe petit à petit. On trouve les mots pour parler d'un livre au fur et à mesure. Et là, comme ce n'est pas encore terminé, c'est difficile d'en parler. Mais en gros, c'est une histoire du Poitou qui se passe principalement à Niort et dans ses environs et qui raconte sur plusieurs générations les différentes formes de vie, on va dire, de la région. C'est pas très clair, mais...
Si, c'est clair. C'est, voilà. Vous avez déjà travaillé aussi longtemps sur un livre?
Non, c'est la première fois.
On a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Mathias Sénard.
Non, merci à vous.
Merci, Mathias Sénard.
Merci.
C'était la masterclass de Mathias Sénard avec Zoé Sfez. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.